en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, merci à votre Académie de m'avoir convié aujourd'hui. Je me propose de montrer dans cette communication qu'une réforme de la fiscalité du capital, qui serait fondée sur quelques principes simples et naturellement cohérents, permettrait de mieux orienter l'épargne des Français vers l'investissement productif et de maintenir cette épargne sur les territoires français. Alors, la réforme esquissée dans l'ouvrage que vous avez mentionné consisterait, j'y reviendrai bien sûr, à remplacer trois impôts par un prélèvement unique assis sur le revenu du capital. Elle simplifierait considérablement notre législation. Elle pourrait être conduite sans perte de recettes fiscales. Elle serait favorable à l'investissement sur notre territoire et à l'emploi, et elle serait gagnante en termes d'équité fiscale. Avant d'entrer dans la démonstration, je précise brièvement trois points de méthode. Premièrement, ce qu'est la fiscalité du capital. Deuxièmement, l'ordre de grandeur de son poids dans l'économie. Et troisièmement, quelques principes d'analyse économique de la fiscalité du capital. Alors, sur la fiscalité du capital d'abord. C'est un concept économique. Elle n'existe pas dans le Code général des impôts, qui ne parle jamais de fiscalité du capital. C'est un ensemble de règles fiscales qui sont en fait disséminées un peu partout dans le Code des impôts, mais qui ont en commun d'avoir un impact sur l'accumulation du capital productif. Ces règles concernent les revenus du capital, la détention ou la transmission du capital. Selon leur définition exacte, et le diable est souvent dans les détails, elles peuvent être plus ou moins défavorables à la productivité et à la croissance économique. Et dans l'ensemble, les économistes considèrent que la taxation du capital est la méthode de taxation la plus nocive pour la croissance. La fiscalité du capital actuelle en France est le résultat d'une longue sédimentation d'impôts. Des impôts fonciers, les plus anciens, par la Révolution française, et même peut-être avant, des impôts sur les revenus du capital, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, qui sont en fait deux prélèvements successifs sur les résultats des entreprises. Un nouvel impôt créé en 1982, l'impôt sur la fortune, assis cette fois sur la détention du patrimoine. Des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, apparus à la fin des années 80 et qui n'ont cessé d'augmenter depuis. Enfin, des droits liés à la transmission du capital, transmission à titre gratuit, droit de succession, droit de donation, et transmission à titre onéreux, les droits d'enregistrement. Elle s'est développée, la fiscalité du capital, en fonction des appétits financiers des pouvoirs publics, l'État et collectivités locales, qu'il ne faut pas oublier, et selon les circonstances du moment, au travers de changements incessants, sans vision d'ensemble, et à vrai dire, sans grand souci de ses effets économiques. Sur le poids de la fiscalité du capital dans l'économie, deux chiffres simplement. Entre la valeur créée par l'activité productive, c'est-à-dire le produit intérieur brut, et le rendement final du capital pour l'épargnant, les prélèvements au titre de la fiscalité du capital représentent en France environ 10% du PIB. C'est le chiffre le plus élevé des pays comparables. Si on se place du point de vue des seuls ménages, un indicateur intéressant est le ratio obtenu en portant au numérateur le total des prélèvements imposés aux ménages au titre de la fiscalité du capital à toutes les étapes de la vie. et au dénominateur le total des revenus du capital encaissés au cours d'une vie. Ce ratio était de 38% en 1995. Il est actuellement de 68%. Le poids de la fiscalité du capital n'a en fait jamais cessé d'augmenter. Au-delà du poids, je veux insister sur un autre aspect qui est, à mon sens, crucial, qui est le système d'incitation ou d'inhibition économique qui résulte des règles fiscales. Car au-delà du poids moyen, la façon de prélever influence fortement les décisions des acteurs. Elle influence donc aussi, à l'échelle de l'économie globale, le niveau et la croissance du revenu national, du pouvoir d'achat et de l'emploi. Alors, sur les effets de la fiscalité du capital, et c'est le troisième préliminaire, si j'ose dire, les économistes qui raisonnent souvent en termes d'optimisation accordent généralement une grande importance aux taux marginaux. Par exemple, la firme en concurrence parfaite fixe sa production d'équilibre au niveau tel que le coût marginal soit égal au prix du marché. Tous les textbooks sont d'accord là-dessus. Le même concept s'applique aussi aux contribuables. Une question pertinente pour l'épargnant est la suivante. Compte tenu de ma situation personnelle, si je prends la décision d'augmenter mon épargne pour l'investir, quel sera pour moi le gain supplémentaire? Quelle sera la charge supplémentaire fiscale? Et que me restera-t-il en net au bout du compte? C'est le taux marginal d'imposition. Mais comment mesurer le taux marginal d'imposition dans notre fiscalité du capital, qui combine des impôts calculés sur les revenus du capital et des impôts calculés sur le capital lui-même? La réponse ne paraît pas évidente, et pourtant elle est très simple. Elle découle du principe économique qui est que tous les impôts récurrents, qui doivent être payés chaque année, constituent des charges courantes et viennent donc diminuer le revenu courant disponible. Ceci est vrai, quelle que soit la base et le mode de calcul de l'impôt considéré. Une taxation régulière de la détention du capital est en fait équivalente à une taxation du revenu du capital. Et la formule d'équivalence est au demeurant très simple. Le taux d'imposition équivalent à un impôt assis sur le capital, en poids sur le revenu, est égal au taux appliqué à la valeur du capital, divisé par le rendement du capital. Je prends quelques exemples pour illustrer ce propos qui peut être un peu abstrait. L'exemple de l'impôt français sur le patrimoine, dont le barème est, comme vous le savez, progressif, de 0,5% de la valeur du patrimoine à 1,5% selon le niveau de ce patrimoine. Prenons par exemple le taux intermédiaire du barème, celui qui est au milieu du barème. Il est de 1%. Si le rendement du capital est de 4%, l'impôt représente une charge annuelle égale à 25% des revenus du patrimoine. Si le rendement est de 2%, il représente 50% des revenus du patrimoine. Si le rendement est de 1%, il représente 100% du revenu du patrimoine. À l'instant où nous parlons, ce taux est de 0,84%. Le seul impôt sur le patrimoine représente aujourd'hui 119% du revenu de ce patrimoine. Avec le taux supérieur du barème, il représenterait 179% du revenu, sans compter bien sûr l'impôt sur le revenu lui-même. Ce constat purement arithmétique explique, à mon sens, plusieurs défauts évidents de notre fiscalité du capital. Premier défaut, le poids effectif de l'impôt sur le patrimoine varie sans cesse au gré du rendement du capital. Même si le barème légal est stable, on arrive à ce paradoxe absurde qui est plus le rendement du capital diminue, ce qu'il a fait depuis 30 ans, plus la charge fiscale rapportée aux revenus du capital augmente. Deuxième défaut, le système fiscal français conduit aujourd'hui à une taxation marginale de l'effort d'épargne qui n'a plus aucun sens économique, comme je l'ai montré. Si on additionne l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux sur le revenu et l'impôt sur le supplément de patrimoine, les trois impôts que j'ai évoqués, le taux d'imposition marginale atteint au total en fait 100% du revenu supplémentaire généré par l'effort d'épargne dès les tranches médianes des barèmes, et pour les tranches supérieures, il dépasse 200% du revenu du capital. Troisième défaut, qui est peut-être encore pire, les taux de prélèvement de plus en plus élevés aboutissent à des situations extrêmes et peu supportables, de sorte que les gouvernements successifs ont été contraints de multiplier des régimes dérogatoires et de créer des niches fiscales avec une multitude d'effets de seuil et de conditions distorsives aux conséquences économiques négatives. Ces préliminaires étant posés, je voudrais vous exposer comment, en corrigeant ces défauts, en inscrivant la fiscalité du capital dans une vision cohérente, il est possible de répondre aux deux questions posées par votre académie, et plus généralement, comment il pourrait en découler des gains macroéconomiques très significatifs. Je concentrerai l'exposé sur quatre aspects. Le premier, c'est l'orientation de l'épargne vers la production. Le deuxième, c'est le maintien de l'épargne sur le territoire français. Le troisième, le lien entre la fiscalité du capital de manière plus générale et la croissance économique. Enfin, le quatrième, la question de l'équité. Première question, comment orienter l'épargne vers les investissements vers les entreprises et les investissements productifs. Sur l'orientation de l'épargne, deux brefs constats. Le premier, c'est que l'orientation de l'épargne des ménages est un enjeu économique essentiel. Les ménages sont en effet, par leur épargne, les premiers financeurs de l'économie. Actuellement, les administrations absorbent environ 2/3 de l'épargne des ménages, les entreprises le tiers restant. Est-ce satisfaisant? Le deuxième constat ressort de l'examen de l'évolution des actifs financiers des ménages. Les liquidités et l'assurance vie occupent un poids nettement croissant dans le portefeuille financier global des ménages français, actuellement à peu près les 3/4 du total. Or, ces placements ont deux caractéristiques. D'une part, ils bénéficient de régimes fiscaux dérogatoires et avantageux, plus ou moins selon les placements. D'autre part, ils sont moins orientés vers l'investissement productif. La fiscalité du capital introduit donc aujourd'hui des biais dans les choix de portefeuille des ménages, biais qui sont plutôt défavorables à l'investissement productif. La littérature économique délivre pourtant un message très clair sur la question de l'orientation de l'épargne. La recommandation de neutralité est consensuelle. C'était l'une, par exemple, des conclusions de la Mirrlees Review, du nom de son animateur James Mirrlees, prix Nobel d'économie 1996. Cette recherche, qui a été conduite à la fin des années 2000 par un ensemble d'économistes internationaux, a sans doute constitué, à mes yeux, l'effort de rationalité fiscale le plus achevé. C'est aussi le point de vue de Maurice Allais dans l'impôt sur le capital et la réforme monétaire. Je le cite, « L'impôt ne doit pas s'opposer à une meilleure gestion de l'économie et il doit être favorable à la réalisation d'une économie efficace. Autrement dit, l'impôt ne doit pas modifier les choix les plus économiques. Sous réserve de quelques exceptions très limitées, la fiscalité devrait être neutre, c'est-à-dire qu'elle devrait distordre le moins possible les choix de placement des épargnants. Chaque placement a des caractéristiques propres en termes de rendement et de risque. Ces caractéristiques conduisent l'investisseur à faire les choix qu'il considère comme les plus adaptés à sa situation présente et future. Fausser ces choix par la fiscalité empêche en réalité une allocation efficace du capital. Or, la fiscalité du capital française est très éloignée du principe de neutralité. On peut même dire, en simplifiant, que plus le placement est liquide et garanti, moins il est taxé. En revanche, plus l'investissement contribue à la production et est de ce fait plus risqué, plus il est taxé. Pour corriger les biais structurels de la fiscalité, on s'évertue ensuite à multiplier des régimes spécifiques ou des incitations budgétaires coûteuses en espérant ramener une partie de l'épargne vers l'investissement. Une fiscalité plus neutre permettrait une meilleure allocation de l'épargne, elle serait aussi plus simple et de ce fait plus stable. C'est la réponse à la première question, comment orienter l'épargne des Français vers les entreprises et l'investissement. J'en viens à la deuxième question, comment retenir en France l'épargne des Français? Une seconde caractéristique de la fiscalité du capital française est qu'elle semble ignorer l'existence d'autres pays et par conséquent les autres fiscalités. En termes de poids global de la fiscalité du capital française, la France est au-dessus de tous les autres pays, je l'ai dit au début. Par exemple, par rapport à l'Allemagne, en ramenant bien sûr la taille de l'Allemagne à la taille de la France pour que les comparaisons soient pertinentes, elle représente en France une surcharge fiscale d'environ 80 milliards d'euros, 4 points de PIB, répartis à peu près pour moitié entre les coûts de production des entreprises et l'imposition des revenus des ménages. Au-delà du poids, les anomalies françaises concernent les règles fiscales qui conditionnent, comme je l'ai indiqué, les comportements. Les autres pays européens ont tous des impôts sur les revenus financiers, bien sûr, mais premièrement, ils n'ont en règle générale pas d'impôt analogue sur le patrimoine. Et deuxièmement, ils ont tous adopté une imposition des revenus du capital proportionnelle aux revenus du capital, avec un taux moyen, et marginal d'ailleurs, puisque le taux est unique, de l'ordre de 25 à 30%. Prenons à nouveau l'exemple de l'Allemagne. Le taux marginal d'imposition totale d'un effort d'épargne résulte de l'impôt sur le revenu, il n'y a que celui-là, et il est de 26% du revenu procuré par cette épargne. En France, en additionnant les différentes charges fiscales, les trois impôts que j'ai évoqués, déclenchés par l'épargne, le taux marginal pour le même effort d'épargne peut aller jusqu'à 200%, 26%, 200%. Cette situation est absolument, à mes yeux, incompatible dans la durée avec le choix de l'Europe, qui implique la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, et naturellement pour la zone euro, la même monnaie. On sait qu'il en résulte une hémorragie lente de capital au départ de la France vers d'autres territoires. La réponse à la question « Comment retenir en France l'épargne des Français ?» est en fait assez simple. Elle consiste à aligner notre fiscalité du capital sur celle de tous les autres pays de la zone euro. Mais si vous le permettez, je souhaite maintenant aller au-delà et évoquer une question qui englobe les questions précédentes, qui est la question plus générale du lien entre la fiscalité du capital et la croissance économique. Je vais essayer d'expliquer en quelques mots pourquoi la fiscalité du capital telle qu'elle est conçue aujourd'hui en France est un frein à la croissance économique et donc à l'emploi. Réformer la fiscalité du capital serait donc de nature non seulement à rehausser le niveau d'équilibre, donc le pouvoir d'achat moyen par Français, mais aussi à augmenter le taux de croissance potentiel de l'économie, ce qui, cumulé sur plusieurs années, a des effets encore bien plus favorables. J'insiste bien sur ces deux gains, qui ne sont pas les mêmes. L'un qui est de relever le niveau d'équilibre de l'économie, et le deuxième, c'est d'augmenter la croissance de cette économie. Sans développer ici des modèles sophistiqués, qui sont accessibles sur le site de Rexecode et qui ont été préparés par Jean-François Ouvrard, qu'on a cité tout à l'heure, je me limite à deux observations. La première, la fiscalité du capital modifie l'équilibre économique dans un sens restrictif, c'est la question du niveau. Comme sur tous les marchés où se rencontrent une offre et une demande, l'introduction de taxes conduit à un écart entre le prix hors taxe et le prix taxe comprise. Dans le cas qui nous occupe, le marché de l'épargne, le prix hors taxe, c'est le rendement reçu par l'épargnant. Le prix taxe comprise, c'est le coût du capital pour l'entreprise. Il résulte donc de la fiscalité du capital, surtout si elle est forte, un écart entre les deux et un niveau d'équilibre offre-demande plus bas, dans lequel l'épargne est un peu moins rentable pour l'épargnant et l'investissement un peu plus coûteux pour l'entreprise, mais surtout le niveau d'activité plus bas que si la fiscalité du capital était non présente. Deuxième observation, une fiscalité du capital mal conçue est un obstacle à la croissance. Le taux de croissance d'une économie n'est pas donné, a priori. Il dépend, bien sûr, de la démographie, de l'investissement et du niveau d'innovation, mais aussi des choix de régulation et de fiscalité. La taxation du capital joue alors un rôle très spécifique en raison du caractère cumulatif du capital. Réduire l'incitation à augmenter le capital a des effets défavorables qui se cumulent d'année en année et jouent négativement sur le taux de croissance économique. De ce lien entre la fiscalité du capital et l'accumulation du capital, il découle assez naturellement que la progressivité de la taxation du capital s'avère défavorable aussi du point de vue de la croissance. Indépendamment de tout aspect normatif sur lesquels je reviendrai, du strict point de vue économique, la taxation de plus en plus lourde sur les acteurs qui contribuent le plus à l'augmentation du stock de capital sur le territoire ralentit l'accumulation du capital et la croissance de l'ensemble de l'économie. Au total, la conclusion ne fait aucun doute. Si on se place du point de vue de l'efficacité économique, une fiscalité du capital neutre, modérée et peu progressive est plus favorable au niveau de vie générale et à la croissance économique. Alors on pourrait s'arrêter à ces conclusions. Cependant, dès lors que l'on propose de réformer la fiscalité, on doit s'interroger sur les raisons qui ont toujours poussé dans le passé les responsables politiques, quels qu'ils soient, à augmenter systématiquement en France le poids de la fiscalité du capital et à la rendre de plus en plus complexe et illisible. Pour répondre à cette question, il faut prendre en compte le débat sur la justice sociale et sur l'équité fiscale. C'est en effet toujours en invoquant la justice sociale que la fiscalité du capital a été alourdie et rendue plus progressive. Il suffit de lire pour cela tous les exposés des motifs des lois de finances successives. Il n'est pas douteux, bien sûr, à mes yeux, qu'il est juste d'imposer plus ceux qui ont plus. Mais le principe général étant admis, il faut aussi s'interroger sur l'efficacité réelle des moyens mis en œuvre. Je suggère ici brièvement, car le sujet est complexe, deux observations. La première est que, contrairement aux apparences immédiates, dont je suis bien sûr bien conscient, la fiscalité du capital ne peut jouer en fait qu'un rôle relativement second dans la réalisation de l'objectif de redistribution. La deuxième observation est que par rapport à la situation actuelle, une approche pragmatique permettrait au moins de supprimer certaines situations clairement contraires à l'équité fiscale. Alors la question de la justice sociale, elle comporte plusieurs dimensions et il faut s'interroger sur le rôle de la fiscalité du capital en fonction ou selon l'approche privilégiée. Commençons par la question de l'égalité. Si on cherche d'abord à réduire les inégalités, une question qui vient immédiatement à l'esprit est la suivante. Jusqu'où faut-il éliminer les différences de situation économique entre les personnes? Il est difficile de prétendre que la justice sociale consisterait à redistribuer toujours plus par l'impôt jusqu'à obtenir l'égalisation stricte des revenus et des patrimoines de tout le monde, car certaines différences peuvent être justifiables. Un objectif consensuel est de viser l'égalité des chances. John Romer, par exemple, propose ainsi de distinguer parmi les déterminants des situations économiques ceux qui relèvent des circonstances et qui échappent à l'intéressé, par exemple le milieu d'origine, la naissance, et ceux qui résultent de son effort personnel et relèvent donc de sa responsabilité. Il s'agirait donc de compenser les effets des circonstances, mais de ne pas neutraliser le rôle de l'effort. C'est l'idée qui légitime la progressivité des droits de succession. Mais la même idée justifierait alors des droits de donation sensiblement inférieurs aux droits de succession, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ou plus le cas. Du point de vue de la fiscalité du capital, je mentionne aussi une idée originale proposée par Anthony Atkinson, vous savez l'économiste qui a passé une grande partie de sa vie à travailler sur l'inégalité, idée que l'on pourrait appeler le patrimoine universel. Ça c'est de moi, c'est pas de lui. Chaque jeune recevrait de l'État à 18 ans, un même capital. Ensuite, la fiscalité du capital devrait s'abstenir de toute mesure de redistribution, car les différences de patrimoine résulteraient alors de son effort personnel. L'idée est intéressante. Je ne sais pas dans quelle mesure elle serait fortement soutenue par l'opinion publique. L'exemple du revenu universel nous a instruits sur ce plan. Une autre conception de la justice sociale est celle proposée par John Rawls, comme vous le savez. Selon cette conception, la priorité absolue d'une politique de justice sociale serait d'assurer à tous l'accès aux biens les plus indispensables à la vie, qu'il appelle les biens premiers, disons la nourriture, le logement et les soins pour illustrer le propos. Une politique fiscale juste devrait donc moins viser l'ensemble de la répartition que la situation des plus démunis. Et alors, si la question est abordée ainsi, on ne voit pas de lien particulier avec la fiscalité du capital. Bien sûr, toute augmentation des recettes publiques peut contribuer à la redistribution, y compris une augmentation de la fiscalité du capital, mais la fiscalité du capital n'a pas de ce point de vue de statut particulier. Un exemple extrême illustratif est celui de l'impôt sur la fortune. Cet impôt représente en masse 0,25% du PIB. Or, la redistribution met en jeu en France 57% du PIB. Ce que montrent plusieurs travaux, c'est que la persistance de la pauvreté, qui existe malheureusement en France et persiste, renvoie à des facteurs qui relèvent très largement de choix de dépenses publiques, comme l'échec scolaire, les difficultés d'insertion professionnelle, la concentration de difficultés dans certains quartiers, la complexité de l'accès aux aides, et non pas du tout à la structure de la fiscalité. L'observation factuelle confirme d'ailleurs ces analyses. Selon les calculs de l'INSEE, présentés par l'Observatoire des inégalités récemment, les indicateurs d'inégalité comme ceux de pauvreté ont nettement reculé en France depuis le début des années 70, mais la baisse des indices a eu lieu avant 1980. Elle est antérieure aux deux périodes de forte hausse de la fiscalité du capital, qui se situe à la fin des années 90 et dans la période récente. On ne voit donc pas de corrélation avec les variations de la fiscalité du capital. Si l'on se place enfin du point de vue de l'équité fiscale, qui est un aspect essentiel de la justice fiscale, on distingue traditionnellement l'équité fiscale verticale, qui est violée lorsque le contribuable le mieux loti est fiscalement avantagé par rapport au contribuable moins bien loti. La règle d'équité horizontale, elle, est violée lorsque deux personnes qui sont dans des situations comparables sont traitées par la fiscalité de façon différente. Or, ces deux situations, qui sont choquantes du point de vue de l'équité fiscale, sont présentes dans notre fiscalité du capital, qui permet par exemple, au très gros patrimoine d'échapper à l'impôt. Elle ne résulte pas d'une erreur d'inattention du législateur, elles sont une conséquence incontournable du logiciel de notre fiscalité du capital, de ses excès, de la multiplicité et de l'incohérence des régimes dérogatoires dont la combinaison arrive au résultat que j'ai indiqué. Enfin, n'oublions jamais une dernière observation cruciale, c'est qu'on ne peut pas dissocier complètement les conséquences économiques et la justice sociale. Dans la mesure où la fiscalité du capital contribue par ses défauts à la faiblesse de la croissance et au niveau élevé du chômage, c'est une cause, pas la seule, mais c'est aussi une cause d'inégalité devant l'emploi et donc une grave injustice sociale. En réalité, dans l'espoir affiché et a priori louable de réduire les inégalités, notre fiscalité du capital s'est en fait enfoncée dans des excès, dans une complexité croissante et de ce fait une instabilité permanente. Il n'y a jamais assez de niches. Une réforme d'ensemble est possible, et ce sera ma conclusion et ma proposition, et elle serait gagnante, non seulement du point de vue de l'efficacité économique, mais aussi dans la mesure où elle supprimerait certaines anomalies actuelles du point de vue de l'équité sociale. Alors, quelle réforme ? L'objectif est de remplacer l'imbroglio des textes actuels par un droit commun de la fiscalité du capital d'application large et fondé sur quelques principes simples que j'énonce. La fiscalité du capital doit pouvoir s'appliquer à tous, avec le moins possible de dérogations ou d'exceptions, c'est ce qu'on appelle le droit commun. Elle doit être neutre afin de respecter les choix d'épargne et d'investissement de chacun. Elle doit être simple et transparente afin d'être comprise par tous. Elle doit être en harmonie avec celle des pays les plus proches, notamment européens. Enfin, elle doit supprimer les situations inéquitables les plus évidentes. Il ne s'agit pas, à mes yeux, de privilégier l'efficacité au détriment de l'égalité, de l'équité, mais de progresser dans les différentes directions à la fois. Alors, la proposition centrale est de remplacer trois prélèvements actuels, l'impôt sur le revenu concernant le capital, les prélèvements sociaux sur le capital et l'impôt sur le patrimoine, par un seul et unique prélèvement qui serait proportionnel aux revenus du capital. Compte tenu de notre situation budgétaire et de notre dette publique, le taux devrait être calculé au moins dans un premier temps de façon telle que le rendement global de la fiscalité soit inchangé. Un taux de 30% serait de ce point de vue suffisant, donc 30% des revenus du capital. Je note au passage que 30%, ce serait encore le taux le plus élevé des pays européens. Thomas Piketty ne m'en voudra pas si je cite la conclusion de son ouvrage de 1999, « L'économie des inégalités ». Et là, je le cite, « Il ne suffit pas de vouloir redistribuer, encore faut-il employer des outils adéquats. Les expériences passées suggère qu'une amélioration sensible pourrait être obtenue à l'aide d'un impôt calculé de façon aussi simple que possible. Cet outil, la flat tax, entre parenthèses l'impôt universel à taux unique, n'est sans doute pas adapté à la redistribution fiscale des revenus du travail, qui exige et qui permet une plus grande liberté, mais pourrait bien convenir à la réalité contemporaine des revenus du capital. Si les taux d'imposition redeviennent plus normaux et si les situations extrêmes sont évitées, les niches fiscales devenues inutiles peuvent être supprimées. Elles pourraient être éventuellement remplacées par une franchise d'imposition pour ce qu'on peut appeler la petite épargne, gros l'équivalent de nos livrets de caisse d'épargne, c'est-à-dire une exonération totale des premiers revenus du capital, quelle que soit l'affectation de l'épargne. Cette affectation resterait choisie librement par l'épargnant afin de respecter le principe de neutralité. Le système ainsi conçu serait infiniment plus simple que le dispositif actuel. Il permettrait de supprimer des centaines, voire des milliers de pages d'instructions fiscales, qu'on oublie souvent. Il y a la loi, mais il y a l'étage des instructions qui grossit la loi de manière considérable. La question des boucliers fiscaux et plafonnements ne se poserait plus. Puisque la base étant le revenu, il y aurait toujours le revenu pour payer. Il serait plus neutre pour l'orientation de l'épargne qui serait allouée librement, y compris vers l'investissement risqué, mieux rémunéré, sans pénalisation fiscale excessive. La neutralité serait ainsi totalement assurée entre les placements, mais aussi dans le temps, ce qui est important du point de vue de l'imposition des plus-values. Le système serait plus juste qu'aujourd'hui, car les personnes dans des situations égales supporteraient la même charge fiscale et les gros patrimoines n'échapperaient pas à l'impôt. Enfin, les taux marginaux d'imposition étant ramenés à des niveaux plus incitatifs et se rapprochant de ceux des autres pays européens, la fiscalité du capital serait plus stimulante pour l'économie et on pourrait attendre de la réforme des gains significatifs en termes d'investissement, de croissance et d'emploi. Voilà pourquoi je soutiens une telle réforme et je me réjouis que pour la première fois, le débat politique semble retenir quelques-unes de ces idées. Mais là encore, le prochain chapitre devrait être écrit plus tard. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. La première question est celle d'Yvon Gattaz.
Oui, je voudrais féliciter Michel Lidier, dont nous connaissons tous les hautes capacités. Et nous avons des liens très anciens parce que j'avais participé, moi, il y a bien longtemps, à la formation de Rex Eco, l'ancêtre de Rex Ecode, avec Paul Huvelin, qui m'avait mobilisé. Puis, sauf que plus tard, j'avais sympathisé avec Jacques Plassard, qui a été longtemps le président de Rex Ecode, et nous avions fondé ensemble une revue socio-économique, Les Quatre Vérités, avec Octave Gillier et Michel Drancourt. Par ailleurs, Michel Didier, dans sa modestie naturelle, ne nous a pas rappelé, mais je vais le faire à sa place, que c'est grâce à lui qu'existent les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Et je vais raconter l'histoire à nos confrères en deux minutes, si vous me permettez. Après m'être battu 30 ans pour faire reconnaître cette catégorie d'entreprises dont la France ne voulait pas, car le M était déjà mobilisé par le M de PME, et on m'avait dit, il n'y a pas d'entreprise de taille moyenne en France. Je suis arrivé à convaincre le président Sarkozy, qui, le 5 mars 2008, a dit, nous allons donner satisfaction à Yvon Gattaz, et créer une catégorie d'entreprise qui n'avait pas de nom à l'époque, où j'appelais entreprise de taille moyenne. Et on a créé une commission pour reconnaître cette catégorie d'entreprise, dont on n'est pas sûr qu'elle existât. Ce n'était pas certain. J'étais pas sûr du tout qu'il y avait des moyennes entreprises en France, d'autant plus qu'elles avaient disparu à cause du doublement de la fiscalité dont vous n'avez pas parlé, mais qui vous connaissez mieux que personne. En 83, le gouvernement de l'époque avait doublé la fiscalité de la transmission. Les droits de succession, qui en ligne directe étaient de 20% de père à fils, étaient passés à 40%. Ce doublement des droits de succession a été pour la France une catastrophe économique, car les entreprises patrimoniales d'une certaine taille, dont le capital représentait des sommes non négligeables, ne pouvaient plus se transmettre. Il y a eu un arrêt complet pendant 20 ans en France de la transmission des entreprises que j'appelais à l'époque les MEP, les moyennes entreprises patrimoniales. Donc, le gouvernement avait demandé à Michel Didier s'il voulait présider une commission pour prouver l'existence réelle des ETI. Et on a donné ce nom à la fin de l'année. Et dans le deuxième semestre 2008, Michel Didier a fait de nombreuses consultations et a fait un rapport magnifique qui a remporté l'adhésion du gouvernement qui, fin décembre 2008, a reconnu enfin, après 40 ans de bataille, cette catégorie d'entreprises, le Mittelstand français, les entreprises de taille intermédiaire. Bon, revenons à son exposé qui était magnifique, et je ne vais pas reprendre un par un. Il a quand même dit énormément de choses tout à fait intéressantes. Moi, je voudrais m'accrocher deux secondes aux inégalités. Très souvent, on parle de ces inégalités, et nous avons pour habitude de nous dire aux jeunes que nous poussons que les inégalités, comme disait Géligné, sont ou critiquables ou louables. Géligné disait, moi je loue les inégalités lorsqu'elles résultent, il disait, du talent et du travail. Et je les maudis lorsqu'elles résultent de privilèges ou de malignités diverses. Et là, il faut les condamner. Donc, nous disons, nous aux jeunes, les inégalités, essayez de les créer vous-même. Alors nous leur citons des success stories, nous leur projetons les fortunes des plus brillantes des start-up américaines, et c'est la vertu irremplaçable de l'exemplarité. Comme il faut une question, j'ai terminé. Et cher Michel, la question est la suivante. Vous nous avez dit qu'il faudrait un seul prélèvement, qui en remplace à trois, je trouve ça magnifique. Est-ce que vous pensez que on pourrait, la France pourrait, sous le gouvernement qui vient de s'instaurer, revenir non pas à l'égalité des prélèvements avec l'Allemagne, que vous connaissez mieux que personne, compte tenu que j'ai fait beaucoup de travaux là-dessus, mais au moins avec la moyenne européenne, dans les 5 ans qui viennent?
Je réponds tout de suite. Alors, il y a deux aspects dans la question de Yvon Gattaz. La première, c'est le poids, la fiscalité du capital. La deuxième, c'est les règles. Ce n'est pas la même chose. Je répondrai aujourd'hui, notre position a été plutôt de dire, dans un premier temps, ne touchons pas au poids, parce que toucher au poids ne peut se régler qu'en touchant à la dépense publique. Sinon, quand on a du déficit, c'est le déficit. Et ça, ça va se heurter à tout plein de problèmes, de difficultés, d'obstacles. Et donc, on va transformer une question sur la structure de la fiscalité en question sur la dépense publique. Ce n'est pas le sujet que nous souhaitions traiter. Nous souhaitions traiter le sujet de la règle. Naturellement, si on peut aussi toucher au point à l'avenir, n'hésitons pas. Mais c'est un peu un autre sujet. Donc, sur le plan de la règle, ma réponse est très claire. Elle est évidemment positive. Rien ne s'oppose, rien, à ce que dans une enveloppe de recettes fiscales donnée, on modifie la structure de manière à la, non seulement de l'Allemagne, la reprocher de l'Allemagne, mais de la reprocher de tous les pays européens. Par exemple, de la Suède, qui a fait cette réforme au début des années 90 et s'en est remarquablement portée. La croissance suédoise, ce n'est pas la seule réforme qui a été faite. Il faut insérer ça dans d'autres réformes. Mais a gagné un point depuis par an, depuis qu'elle a fait notamment cette réforme, celle du marché du travail, etc. Donc je pense qu'on peut très bien, et d'ailleurs c'est, il faut bien dire la vérité, inscrit aujourd'hui dans les programmes, j'allais dire de deux des candidats, il suffit d'un, du programme du président actuel, même si plusieurs questions restent encore un peu à préciser, mais l'orientation fixée, le chiffre de 30% figure, l'unité du taux figure dans les programmes écrits. Donc je pense qu'on va aller dans cette direction. Simplement, si je peux ajouter un mot, pense personnellement, et je l'avais écrit, mais dans un autre optique, dans la dernière revue de commentaires, le dernier numéro, c'est qu'il faut y aller vite et en une seule fois. L'erreur serait de mettre ça à l'agenda des années qui viennent, parce que si nous ne le faisons pas dans la loi de finances 2018, c'est-à-dire dès cet été, dans les choix, pour ce qui concerne les choix, je suis peu optimiste sur le fait qu'on la fera jamais, parce que c'est le genre de mesure qu'il faut pouvoir... D'abord, il faut une cohérence, donc il faut le faire en une fois, et il faut le faire vite, parce que les problèmes de déficit, les problèmes de dépenses, tout ça n'est pas encore réglé. Et donc, il faut poser cette condition d'avoir modifié la règle tout de suite. Sinon, on va rentrer dans des débats sans fin et je crains qu'elle n'ait jamais, que le changement n'arrive jamais.
Bertrand Collomb.
Alors, dans cet exposé remarquable, on voit bien que le caractère absurde et excessif de la fiscalité française sur le revenu de l'épargne est évident, on se demande même, c'est une évidence telle qu'on se demande comment ça peut avoir duré aussi longtemps et comment ça peut s'être alourdi avec des alternances de gouvernement de droite et de gauche. Donc l'idée de revenir, et on voit bien que c'est absurde à la fois parce que ça pénalise l'activité économique et puis parce que surtout dans un monde où, comme on l'a dit, il y a d'autres pays que la France, ça favorise le déplacement de l'épargne et d'activité économique vers d'autres pays. Mais quand on regarde ensuite, de façon plus générale, on se dit, si on prend par exemple la fiscalité américaine comme un terme de référence, parce que finalement, beaucoup des choses en matière financière prennent la situation américaine comme référence, on aboutit au fait que Warren Buffett peut dire que sa secrétaire a un taux d'imposition double du sien. c'est-à-dire qu'elle paye en gros 30% de son revenu, alors que lui paye 17%, ou quelque chose comme ça. Alors bien sûr, c'est lié à la fois aux situations, au taux de base de l'impôt sur le capital, de l'impôt sur les revenus de l'épargne, qui sont les taux raisonnables auxquels on peut penser, et c'est lié aussi à certaines particularités du système. Pendant la campagne de Trump, on avait beaucoup parlé du carried interest, qui fait que des gens du milieu financier peuvent avoir des taux d'imposition sur les gains en capital très bas, parce que ils sont supposés appartenir au monde des entrepreneurs. Quand ce sont des financiers qui se réunissent, qui se rémunèrent essentiellement par des fees sur ce qui se passe, ça peut ne pas être toujours vrai. Enfin, bon. Alors, quel que soit le jugement qu'on porte sur les inégalités, mon jugement n'est pas forcément le même que celui du président Gattaz, mais je pense qu'on a atteint manifestement une situation qui est difficile à accepter au niveau mondial. Alors comment peut-on faire, et je ne parle pas de la France qui, d'ailleurs, peut-être à cause de ses autres problèmes, n'a pas vu une accentuation des inégalités très sensible au cours des dernières années. Comment peut-on faire pour avoir un système qui soit efficace, qui soit raisonnable dans la comparaison internationale, et comment peut-on faire sur le plan international pour que ce système ne conduise pas à des inégalités qui deviennent difficiles à supporter. Nous avions dans cette même salle une présentation de Cahuc, un économiste, qui nous avait parlé de l'exemple allemand, en disant que les Allemands avaient réussi par des mesures de redistribution portant pas sur l'impôt, portant notamment sur l'assurance santé, je crois, à faire en sorte que leur taux d'inégalité n'avait pas augmenté, alors même qu'ils avaient allégé un certain nombre d'impositions portant sur les revenus du capital, puisqu'il faut bien reconnaître que le revenu du capital, c'est surtout le revenu des gens riches, plus que le revenu de la base de la population. Comment peut-on résoudre cette contradiction en moyen terme ?
Michel Didier.
Je ne suis pas sûr de pouvoir la résoudre non seulement en tant que telle, mais en plus au plan international, parce que là, ça dépasse un peu. Je pense qu'on ne peut pas comparer facilement la fiscalité. Je dirais le système américain et le système européen. L'ambition serait déjà d'harmoniser l'Europe pour éviter des situations tout à fait anormales, d'atypisme, d'un pays atypique, disons, qui en subirait les conséquences. Alors, reste quand même, derrière la question de Bertrand Collomb, une vraie question à mes yeux, enfin, que je me suis posée, disons, elles sont toutes vraies, mais celle-là, je me la suis posée, c'est, au fond, quand on propose un taux fixe et unique, on se dit, mais celui qui a beaucoup de revenus du capital, il va payer en proportion la même chose que celui qui a moins. C'est la secrétaire et Warren Buffett. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut opposer à cela ? C'est une vraie question, ça. J'aurais tendance à dire, voilà un peu la défense que je ferai du système unique. Le premier, c'est que je crois que si on commence à introduire une progressivité, on ne s'arrête jamais. C'est notre histoire, en fait, qui démontre cela. Et parce qu'il n'y en aura jamais assez, en réalité. Donc, le seul barrage à l'excès, c'est l'unicité du taux. Alors, il y a des raisons plus économiques que cela, qui est notamment que, quand on regarde l'histoire de la formation du capital, au fond, la rémunération vient d'abord du travail, de l'effort et du travail. Sur le revenu de son travail, on va économiser une partie et l'épargner, et petit à petit, on va constituer un capital. C'est d'ailleurs le vœu de tout le monde. C'est pas, tout le monde souhaiterait avoir un petit capital, c'est la meilleure sécurité dans la vie. Bon. Et puis ce capital, si on le gère bien, va augmenter, surtout si on le place, on met dans les entreprises productives, et il va générer des revenus. Mais l'épargne elle-même a déjà été imposée au niveau du revenu, une première tour de revenu. Donc c'est une deuxième imposition qui, si elle est progressive, fait une double imposition progressive du revenu, s'ajoutant éventuellement à l'imposition progressive du patrimoine lui-même. Et cette double imposition progressive, est-ce qu'elle est justifiée? J'en suis pas sûr. Alors, ça pose un problème qui est lié à plutôt un problème d'héritage et de transmission de l'inégalité. Là-dessus, je serai tout à fait clair. Je crois qu'il faut dissocier le traitement de l'inégalité provenant de ce qu'appelait Maurice Allais distinguer les revenus gagnés et les revenus non gagnés. L'épargne est gagnée aussi d'une certaine manière, sauf si effectivement elle est non gagnée, qu'elle vient soit de rente, soit de... Mais je pense qu'il faut distinguer l'objectif de réduction des inégalités par la transmission, pour ce qui est par les droits, qui se réglerait par les droits de succession, et sur les revenus, avoir une imposition unique, proportionnelle, qui évacue le problème de la différence entre le taux marginal et le taux moyen. Voilà un peu des éléments de réponse qui sont bien sûr, comme toujours, discutables.
Jacques de la Rosière.
Oui, merci. J'ai été très, très séduit par la rationalité de votre exposition. Je crois que nous ne pouvons que tous adhérer aux conclusions que vous avez esquissées. J'avais une question. Comme le système français est absurde et que dans certains cas il est totalement discriminatoire et il dépasse 100% de la matière imposable, quelquefois 200%, comme il est absurde, en fait, il n'est pas appliqué dans cette forme, puisque les agents économiques ont une certaine rationalité, et ce sont eux qui profitent soit de la liberté des mouvements de capitaux pour aller à l'étranger, soit, et c'est ça mon sujet, soit pour bénéficier des niches fiscales ou des avantages fiscaux que l'État a consenti à un certain nombre de placements. Et la question que j'ai est la suivante. Bien sûr, vous avez comparé la règle sur l'impôt sur le capital française et à l'étranger en Europe. Mais vous êtes arrivé à la conclusion que c'est absurde. Est-ce que vous avez, et je suis sûr que vous avez ça dans vos bases de données, est-ce que vous avez comparé les portefeuilles moyens, je dis bien les, parce qu'il faut être un peu granulaire dans cette affaire-là, les portefeuilles constatés, bénéficiant bien sûr de toutes les niches en question, et comparer le résultat de ces portefeuilles avec, disons, la fiscalité moyenne européenne, parce que la question est différente, là. Et je voudrais savoir si l'écart entre ces portefeuilles nichés, si je puis dire, par nos concitoyens, si l'écart avec la fiscalité du capital de nos voisins qui sont plus simples, qui ne pratiquent pas l'exception comme la règle, nous c'est l'exception qui est la règle, est-ce qu'il y aurait de telles différences? Parce que c'est ça mon inquiétude. Et puis j'avais un dernier point que vous avez en partie traité en répondant à la question précédente, c'est l'affaire du présupposé que ce qui est capital est mal et ce qui est travail est bien. Parce qu'il y a un peu ça derrière. Si vous travaillez, bon, vous avez l'impôt sur le revenu, mais vous avez travaillé. Si vous avez bénéficié, de quelque manière que ce soit d'ailleurs, par transmission, par acquisition, si vous bénéficiez de capital, alors c'est mal. Et donc il faut surcharger la peine. Je pense que c'est derrière cette surfiscalisation du capital, mais je pense aussi l'arme a été si lourde, si vous voulez, qu'on a été obligé de créer les exceptions qui ont permis, en fait, de vivre à peu près. Voilà, c'était mes deux points.
Oui, je vais surtout répondre au dernier point. Moi, j'ai aucune référence au bien et au mal dans cette affaire. J'essaye de voir pragmatiquement ce qu'on peut faire pour que les choses fonctionnent mieux, l'économie fonctionne mieux, qu'il y ait plus de travail, plus d'emplois, parce que le travail, c'est quand même l'emploi. Hein. Et une croissance plus forte, donc plus de pouvoir d'achat. Et surtout qu'on préserve quand même, qu'on ne dégrade pas les problèmes d'équité. C'est-à-dire qu'on ne... Alors je pense que la question de l'équité, il faut y revenir, au travers peut-être de la question qui vient d'être posée. Nous avons un système aujourd'hui qui est incomparable aux autres du point de vue de la règle, parce que le logiciel produit obligatoirement des exceptions permanentes. La dernière loi de finances de 2017 en a créé. On a créé encore un compte spécial d'investissement dans lequel on peut remettre la plus-value pour la garder un certain temps, la réinvestir, enfin bref. Ça devient un système absolument incompréhensible. En matière d'immobilier, on surtaxe fortement les revenus de l'immobilier et on crée, tous les ministres du logement successifs créent, ce ne sont pas des niches, c'est pire que des niches, c'est des subventions pour inciter ceux que la fiscalité a inhibés à mettre quand même de l'argent pour construire des logements pour qu'on en ait un peu plus en France. Voilà le système. C'est complètement absurde. On pourrait quand même simplifier tout cela. Voilà, donc je pense que je n'ai pas trouvé, mais je n'ai pas non plus passé en revue toutes les fiscalités de tous les pays européens, parce que les niches, déjà pour comprendre le système des niches français, il faut plusieurs mois de travail.
Les niches existent et l'utilisation des niches existe.
Oui.
Alors, ce qui serait intéressant, dans mon esprit, ce serait de voir comment les portefeuilles réels, ceux qui ont utilisé les niches, pas les portefeuilles fous qui disent « je vais être taxé à 200 %, mais les portefeuilles réels, comment ils se comparent aux portefeuilles réels et plus rationnels de nos voisins. C'est ça le sujet que j'ai. Peut-être que vous n'avez pas la réponse à ça.
Non, j'ai sûrement pas la réponse totale, mais je vais juste prendre un exemple qui me vient à l'esprit. Il y a une niche, je ne sais même pas s'il faut l'appeler une niche, une mesure dérogatoire pour les salariés, d'ailleurs, d'une entreprise qui ont des actions de cette entreprise et qui, la valeur des actions est déclarée pour 25% de leur vraie valeur, enfin de leur valeur comptable, valeur de marché, à l'ISF. Bon. Ça rend les choses vivables tant qu'on conserve les actions. Mais on peut ne pas être conduit à conserver les actions toute sa vie. Le jour où on est, d'une manière ou d'une autre, je pourrais vous en citer comme ça une longue liste, hein, conduit à vendre ses actions, et quelquefois c'est obligatoire, parce que dans des entreprises familiales, le jour où on part, on doit vendre. L'impôt sur le patrimoine est multiplié par plus que 4, parce qu'il est progressif. Il n'y a qu'une solution, c'est de s'en aller. Ou alors de voir son capital progressivement diminuer. Je pourrais vous citer comme ça un très grand nombre d'exemples. Et ça montre bien que ce système n'est pas viable tel qu'il est. Et vous voyez là, en l'occurrence, que le portefeuille du contribuable a complètement changé. Il a tellement changé qu'il est parti.
Merci. Denis Kessler.
Oui, merci, Monsieur le Président. On partage beaucoup de choses, Michel, pour avoir longtemps travaillé ensemble sur ces questions-là. Je partage beaucoup de points. La spécificité de la France, qui est, on est le seul à avoir tous les impôts sur le capital et sur l'épargne, sans exception. Les plus-values, t'es oublié la transaction, les transactions sont plus fortes en France que dans les autres pays. La transmission, je ne reviens pas sur ces points-là. C'est absolument inouï. Deuxième chose, fondamentalement, la dette publique française, tu as raison de le dire, stérilise l'essentiel de l'épargne des Français. Et ça, c'est inimaginable. La dette publique est un appauvrissement du pays. C'est une amputation sur le patrimoine des Français, par définition, puisqu'on reporte une dette à notre passif. Et donc, de ce point de vue-là, le combat pour la réduction de la dette est le principal vecteur, déjà, de l'amélioration de l'accumulation patrimoniale dans notre pays. Et je crois qu'il faut saluer les efforts de notre président sur notre président de l'Académie sur ce point. La troisième chose fondamentale, si tu veux, moi j'oppose toujours, ton exposé est tout à fait remarquable, il y a soit on privilégie l'accumulation ou la répartition et la redistribution. Il faut faire un choix. Notre choix depuis 40 ans, c'est répartition, redistribution. Et le principe d'accumulation, d'épargne et d'accumulation patrimoniale et d'épargne, a été effectivement politiquement attaqué. Il faut condamner ceux qui s'enrichissent en dormant. C'était M. Mitterrand en 1981. Je rappelle, en fait, c'est une phrase d'un prédicateur du Moyen-Âge, comme le rappelle Jacques Le Goff dans La Bourse et la Vie. Je ne vais pas la prononcer en latin, parce que nous avons ici des spécialistes, mais qui est explicitement la condamnation de l'accumulation par les prédicateurs qui ont conduit d'ailleurs à la création des indulgences et à la montée du protestantisme. Et derrière ça, il y a effectivement accumulation, répartition, Michel, et derrière ça, il y a le principe de justice qui est associé. Accumulation, c'est commutatif, la justice commutative, et redistribution, répartition, c'est la justice distributive, tu en as parlé. Et nous avons fait le choix de la consommation, qu'il faut relancer en permanence, redistribution en permanence, contre l'effort, c'est-à-dire le principe de justice commutative et le principe d'épargne et d'accumulation. Donc, tant qu'on n'aura pas, après je vais venir au problème de fiscalité, mais tant que dans notre conception du monde, si on n'a pas un message fort dans lequel effectivement on choisit d'arrêter cette dérive vers la redistribution et la répartition en détriment de l'accumulation, et tant qu'on va à une justice distributive considérée comme la seule possible par rapport à la justice commutative, nous aurons ce débat fiscal qui n'arrivera pas à progresser. Et tu as eu raison de le dire que majorité après majorité, qu'elle passe de gauche et à droite, finalement, il y a quelque chose de méta-politique qui fait qu'on en est conduit à multiplier les prélèvements de toute nature sans arriver à remettre le pays en marche dans le sens de l'accumulation. Donc c'est pour ça que je trouve que ce lien entre justice et accumulation est, à mon avis, extrêmement fort, comme tu as dit dans ton... Là où j'ai un point de complément, un point de désaccord. Je suis pour, les Allemands ont mené ce qu'on appelle la Vermögensbildung Politik. Il faut pas appauvrir ceux qui ont du bien, il faut encourager ceux qui n'en ont pas à le constituer. Donc c'est une politique d'accumulation du patrimoine, constitution des patrimoines, et ça c'est fondamental. Et c'est là aussi une inversion par rapport à une fiscalité punitive française, par rapport à une fiscalité encourageant, qui permet évidemment de réduire l'inégalité des patrimoines en encourageant ceux qui n'en ont pas à pouvoir l'accumuler dans les meilleures conditions. Donc, oui, je suis pour la réduction des inégalités de patrimoine, mais fondamentalement en encourageant ceux qui n'en ont pas à pouvoir le constituer par tous les moyens, plutôt que de ponctionner les patrimoines importants, les encourageant à quitter l'entreprise. Alors là, mon point de désaccord, c'est, moi, je fais toujours une distinction fondamentale entre est-ce que je diffère mon revenu ou est-ce que je diffère ma consommation ? Et ça, dans les autres pays, on diffère d'abord son revenu par les fonds de pension ou les mécanismes d'épargne retraite. Nous, on a choisi la répartition. On prend tout de suite, on distribue tout de suite, et puis plus tard, les générations futures paieront. Dans les autres pays, je rappelle quand même que beaucoup du revenu est différé dans le temps sans être fiscalisé, parce qu'on l'accumule dans le cadre des fonds de pension qui viennent alimenter le système productif, le financement des entreprises, et qui ont les vertus d'alimenter le marché financier, de passer d'une économie d'endettement à une économie de fonds propres. Donc c'est la grande tâche aveugle de notre système en France, et là aussi c'est de nouveau une raison politique, blocage fondamental, considérer que le fonds de pension c'est le mal, alors que dans tous les autres pays, je rappelle, c'est l'épargne des salariés, c'est vrai en Suède, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Pays-Bas, c'est vrai partout, peu importe. Et donc, de ce point de vue-là, je serais pour une fiscalité nulle pour tout ce qui est revenu différé, de façon à encourager les gens à prendre des engagements dans le très long terme, ne touchant pas leurs revenus, ils ont pas eu la possibilité de consommer, et ils pourront consommer lorsqu'ils toucheront une rente ou une capitale à la sortie du tunnel. Et de ce point de vue-là, ça c'est mon premier point, donc il faut résoudre cette tâche aveugle. Je considère que la France aura un grand pas en avant le jour où un président de la République ou un gouvernement décidera de briser ce tabou, qui est aussi important que celui du marché du travail, du CDI, du CDD, pour ma part. Vous savez, ces espèces de points nodaux où on passe pas, et le monde, c'est la bifurcation, on passe dans... Sur ce point, je suis moins d'accord avec toi sur la neutralité. Alors une fois qu'on a effectivement touché notre revenu, moi, je crois que la collectivité a intérêt à ce que les gens prennent des risques, et je pense que la collectivité a intérêt à ce que les gens s'engagent à long terme. Et comme j'ai défendu toute ma vie, je ne peux plus changer d'idée. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport à la neutralité, en disant on s'en fout que vous épargnez à long terme, à court terme ou à moyen terme, et que vous preniez des placements risqués ou non risqués, je préfère une échelle qui dise la collectivité souhaite que les gens s'engagent le plus à terme possible pour la stabilité de l'accumulation. Et deuxième chose, qu'ils prennent des placements à risque plutôt que des placements sans risque. Et de ce point de vue-là, c'est notre politique. Donc entre le principe de neutralité que tu as affiché, le principe tout simple, risque et durée d'engagement sont positifs, sont négativement corrélés au taux d'imposition, il me semble que là, il y a un débat, mais qu'on peut avoir sur le fond. Donc, merci vraiment pour cette contribution. Je pense que on identifie sur ce sujet de l'épargne et de la remise en route de pays vraiment des questions qu'il va falloir trancher. Et si elles ne sont pas tranchées maintenant, je considère pour ma part qu'on ne retrouvera pas la croissance et le plein emploi, comme tu l'as indiqué.
Michel Didier.
Oui, sur les deux points évoqués par Denis Kessler, j'ai voulu échapper au dilemme répartition-accumulation. Je connais le point de vue de Denis, je l'ai entendu plusieurs fois, mais j'ai voulu y échapper parce que si on le pose ainsi, si on pense que c'est vraiment central, moi je pense que dans ce pays, la répartition gagnera toujours. Et donc l'opinion sera toujours pour la répartition et jamais pour l'accumulation. Donc j'ai été moins ambitieux d'une certaine manière et j'ai montré que, et je pourrais le développer mais peut-être pas maintenant, qu'on pouvait faire mieux, beaucoup mieux en termes d'accumulation et mieux aussi en termes de répartition, qu'il y avait au moins une zone où il n'y avait pas contradiction. Et donc, on pouvait éviter des inéquités aujourd'hui, enfin des situations d'inéquité, donc c'est un progrès, hein, tout en gagnant sur l'efficacité. C'est un premier résultat. Si on l'obtenait, je serais assez content. Alors, sur l'autre sujet, je n'ai pas de désaccord. Simplement, il y a un point que je n'ai pas introduit dans la discussion aujourd'hui, parce qu'il faut se limiter et choisir des axes principaux. Qui est un peu lié d'ailleurs à un sujet que, évidemment, Denis connaît bien, qui est l'assurance-vie, qui a effectivement des avantages fiscaux, mais pas aussi importants qu'on l'imagine. On a l'impression qu'on ne paye rien du tout, ce n'est pas vrai, on paye à un moment ou à un autre. Mais je pense qu'on a un problème de transfert. Il y a un vrai sujet aujourd'hui, qui ne concerne pas que la France, mais particulièrement la France parce qu'il n'y a pas de fonds de pension, qui est de transfert de capital d'une génération à une autre. Le capital s'accumule, on le regarde dans les répartitions, ça s'accumule, on va dire, chez les aînés, hein, appelons ce terme de neutre d'aînés, c'est-à-dire chez les personnes de plus de 60, 70 ans. Bon. Or, compte tenu de l'allongement de la durée de vie, l'héritage, le transfert qui est l'héritage, a lieu maintenant presque à 60 ans. Ça n'a aucun sens. On héritait à 40 ans il y a quelques décennies, on hérite à 60 ans. Donc, il y a une accumulation et il faut transférer une partie du capital. Trouver le moyen de transférer une partie du capital des aînés vers les jeunes. Les jeunes le dépenseront, ils construiront des maisons, c'est parfait, ça relance la croissance. Mais ça n'est possible, et là on va peut-être trouver un point de convergence, ça n'est possible que si on rassure les aînés. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la situation dans laquelle on se trouve quand on approche, disons, de la cinquantaine? On se dit, un, les retraites, je ne sais pas si je vais en avoir. Parce qu'on me garantit périodiquement, mais on voit bien qu'on va les baisser. Deuxièmement, j'ai du capital, certes, mais le rendement baisse. Et en plus, la fiscalité sur ce qui revenus augmentent. Et troisièmement, c'est tellement instable que je ne sais même pas si ça va pas encore augmenter d'ici le moment où j'aurai la retraite. Quelle est la réaction naturelle face à cette situation? C'est d'accumuler encore plus. Donc il y a une suraccumulation d'un côté. Alors comment faire pour rassurer? Et c'est là que je pense qu'on peut trouver une réponse que je n'ai pas élaborée, mais du côté de cet énorme portefeuille d'assurance-vie, qui me paraît plus tout à fait correspondre dans le contexte d'aujourd'hui, enfin dans les contraintes de contrepartie de l'avantage fiscal, c'est-à-dire les 4 ans plus 8 ans, me paraît trop court par rapport à ce qu'il faut pour pouvoir rentabiliser un capital
Il faut avoir un horizon plus lointain. Et donc, je pense qu'il y aurait à la fois une réforme possible de l'assurance-vie, sans supprimer certains avantages, mais des contraintes un peu plus fortes, qui seraient une sorte de pont vers les fonds de pension que Denis évoquait tout à l'heure, parce que je ne vois pas comment, dans le système actuel, tout d'un coup, on peut ajouter à toutes les couches un fonds de pension à partir de rien. Bon. Donc là, je pense qu'il y a une évolution très importante, mais je ne l'ai pas vue dans aucun des projets actuels.
Jean-Claude Trichet.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je rejoins tous ceux qui m'ont précédé pour dire combien l'exposé de Michel Didier est non seulement remarquable, mais très très convaincant sur un très grand nombre de points. J'ai une observation et deux questions. L'observation, je rejoins complètement Denis Kessler sur le fait que tout ce qui peut privilégier l'investissement à long terme et l'investissement en equity, en action, en France évidemment, où nous avons un leverage qui est beaucoup trop élevé, mais aussi en Europe et dans le monde, est bon à prendre. C'est un mot d'ordre mondial, il me semble qu'on rejoint aussi l'un des travaux, Jacques, du G30, et vos propres travaux, si je puis dire. On a un leverage qui continue au niveau continental et mondial au même rythme qu'avant la crise. Donc c'est une des vagues qui nous menace. Question. Une seule chose est absolument sûre, à moins que j'ai mal lu les programmes, enfin le programme, parce qu'il y a un programme. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que normalement, l'impôt sur le capital devrait être exonéré complètement, si j'ai bien compris, tout ce qui est mobilier, tout ce qui est investissement, quel qu'il soit, en valeur mobilière, ne pas exonérer l'immobilier. Alors, question à Michel Didier, est-ce que ça va dans le sens... Ça ne va certainement pas dans le sens de la neutralité. J'y vois beaucoup d'avantages personnellement, et donc je suis assez séduit par le projet. Est-ce qu'il est critiquable sous l'angle économique, selon Michel Didier? Deuxième question. Je rejoins Bertrand Collomb. Sur la faisabilité politique, et Jacques de la Rosière d'ailleurs, sur la faisabilité politique. L'exposé de Michel Didier est le suivant. En introduction, je vais remplacer trois impôts par un prélèvement unique sans perte de recettes. Et le suspense a été maintenu jusqu'au dernier moment où, effectivement, on a eu en conclusion l'impôt unique sans perte de recettes. Alors là, je suis assez perplexe parce que, après nous avoir expliqué que l'impôt était accablant, finalement, on a sans perte de recettes une flat tax qui, si je comprends bien, est de l'ordre de grandeur de la flat tax allemande et d'ailleurs est nécessairement plus élevée puisqu'on a plus de dépenses publiques que les Allemands. On a 13 points de PIB ou 10 points de PIB de plus, donc il est normal 6 ans 26% qu'on ait 31 ou 30, quelque chose comme ça, homothétiquement. Mais alors, on voit bien que beaucoup de gens, entre guillemets, gagnent. Puisqu'on évite toutes les horreurs que l'exposé nous a expliquées en détail. Mais alors, qui perd exactement? Et quelle est la faisabilité politique, où que ce soit, et en France en particulier, de la flat tax? Et est-ce qu'on peut avoir juste un ou deux mots? Je ne sais pas. L'assurance-vie, peut-être. Les patrimoines les plus modestes vont-ils perdre? Enfin, quelle est la faisabilité politique?
Michel Didier.
D'accord. Alors, d'abord l'immobilier, enfin la question de l'immobilier, puis après l'équilibre général de la réforme. Sur l'immobilier, je dirais que il y a deux manières de justifier la proposition de garder une imposition du patrimoine sur une base immobilière, sur une base foncière ou immobilière. La première raison, c'est que politiquement, ça peut passer. Voilà, ça facilite l'acceptabilité de la proposition. Celle-là, je ne la discute pas, c'est une évaluation politique à faire. La deuxième raison, qui me paraît beaucoup moins juste, c'est que l'immobilier, ça ne bouge pas. Ça, ce n'est pas vrai. Bien sûr, l'immobilier, il est là où il est, mais les placements immobiliers, on peut en faire partout. On n'est pas obligé d'investir sur des... Il y a la pierre papier, c'est devenu quand même essentiel. Et on peut très bien acheter de la pierre papier, d'ailleurs ce serait plutôt conseillé aujourd'hui, sur des biens immobiliers qui sont en Allemagne. J'ajoute d'ailleurs qu'ils sont imposés, si on fait cela, on est imposé à la taxation allemande, qui est de 17%, proportionnelle. Bon. Donc il y a aussi tout un système d'incitation qu'il faut prendre en compte. Deuxièmement, et ça je ne vois vraiment pas comment ça va se passer, je vois bien plus exactement si on veut aller dans cette direction qu'il va falloir recréer un arsenal d'instruction fiscale, parce que la raison de base c'est que l'immobilier, c'est la rente, c'est tout ce qu'on veut, mais si j'investis dans un immeuble de bureau ou un entrepôt, c'est de l'immobilier, est-ce que c'est moins productif que des machines à calculer ou une machine quelconque ou un des bureaux tout simplement, je ne sais pas. Donc où va-t-on mettre la limite entre les deux? Je vois bien, on peut très bien avoir de l'immobilier dans l'assurance vie. Enfin, il y a la combinaison de tout ça fait que je comprends la raison politique. Peut-être faut-il passer par ce sas. Mais je pense que ça ne va pas être simple. Et ce que je craindrais, c'est que finalement, on présente les choses en disant on maintient l'ISF, simplement on enlève quelques petites choses, et l'enveloppe restant, les règles restant, l'article 800, 885, etc., restant, n'importe qui, quelque autre gouvernement qui aura des besoins pour boucher des trous, rajoutera, évidemment. Donc je pense qu'il faudrait au moins supprimer clairement tous les articles 800 de l'ISF, éventuellement créer un impôt nouveau, complètement neuf, qui serait une deuxième couche, hein, parce que l'immobilier est déjà imposé par les impôts fonciers. N'oublions jamais ça. Hein. Qui est proportionnelle d'ailleurs, ou à peu près proportionnelle. Et ajoutons un super impôt immobilier si on veut faire passer le message, mais en aucun cas ne traduisons la réforme par un ISF allégé, parce que ça c'est sûr que ça sera transitoire. Alors sur le deuxième point, qui est la question de trois impôts par un impôt unique, comment on s'en sort finalement? Qui paye? Alors il faut voir que quand on regarde la répartition, il y a des crêtes partout, mais la masse sous les crêtes n'est pas énorme. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur les comportements et les incitations. Les incitations reposent sur des taux marginaux. Mais les taux marginaux s'appliquent aux revenus ou au capital marginal, et il n'est pas si énorme que ça. Donc, ça ne représente pas beaucoup, en fait, d'argent. Hein ? L'égalisation ne fait pas perdre beaucoup d'argent, j'entends. Hein ? Alors, il y a quand même un équilibre quelque part à trouver. Cet équilibre, c'est évidemment la suppression des niches fiscales. Elles représentent à peu près une dizaine de milliards d'euros aujourd'hui. On ne peut pas les supprimer d'un coup, hein, parce que certaines vont vivre encore 15-20 ans. Mais l'orientation est là, la suppression des niches fiscales fait l'équilibre à 30% du revenu. Ça suffit pour équilibrer. C'est même pas 20, on n'a même pas besoin de 30. Avec 26, on y arriverait. Mais j'ai pris des précautions. Il faudrait éviter que si on fait la réforme, on se retrouve avec moins de recettes. Parce que là, il y aurait une espèce de réaction qui dirait cette réforme n'est pas bonne. Je préfère qu'on ait des surplus. Et là, on est sûr que, l'affaire est enclenchée. Donc voilà en gros l'équilibre. C'est quand même beaucoup, 10 milliards sur eux. Alors j'ai oublié peut-être un point, notamment quand on compare à l'Allemagne, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'une grosse partie de notre écart de fiscalité du capital avec l'Allemagne vient des impôts fonciers. Elle ne vient pas de l'ISF, elle vient des impôts fonciers. Sur les entreprises, par exemple, pratiquement tout l'écart d'imposition du capital qui vient dans les coûts de production vient des impôts fonciers. Ils ne sont pas du tout perçus de la même manière dans les deux pays. Nous avons presque 2 points de supplément de coûts de production liés aux impôts des collectivités locales. Ce que l'Allemagne n'a pas parce qu'elle a un autre système différent. Et beaucoup d'autres pays n'ont pas.
André Vacheron.
Oui, merci Monsieur le Président. Oui, il est dit, je ne sais pas si c'est vrai, c'est d'ailleurs une de mes questions, que 50% de nos concitoyens échappent à l'impôt. Donc, est-ce vrai et est-ce socialement convenable ? Ces concitoyens qui échappent à l'impôt utilisent nos hôpitaux, utilisent notre système de santé, utilisent nos routes, nos chemins de fer, et ils échappent à l'impôt. Et une remarque que je voudrais également faire, c'est que l'assurance vie, sur laquelle on émet actuellement des réserves, elle investit, l'assureur investit dans les cliniques, investit dans la construction, dans les maisons d'étudiants, et il participe, je pense, au développement de l'économie. Et il ne faut pas dire que parce qu'on souscrit un contrat d'assurance vie, on ne participe pas indirectement à l'économie.
Michel Didier.
Bien, sur la question de savoir si nos concitoyens payent des impôts, oui, bien sûr. Mais l'impôt sur le revenu.
Oui, je parle de 50%.
L'impôt sur le revenu, aujourd'hui, est payé par 45% des contribuables. 55% ne payent pas zéro d'impôt sur le revenu. Ce qui me fait être assez hésitant sur la réforme qui nous est annoncée, que non seulement dans ce pays, 55% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu, mais 80% ne paieront plus de taxes d'habitation, parce que c'est les deux seuls impôts qu'on comprend, qu'on voit, qu'on paye avec ses chèques ou son virement, c'est l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation. Tous les autres, c'est des impôts indolores. La TVA, la CSG, personne ne sait combien il paye de CSG, c'est prélevé avant qu'on lui règle son salaire. Bon. Donc il y a un vrai sujet, je pense, derrière cette mesure, qui peut-être est politiquement très astucieuse, mais qui me semble nous écarter de ce qu'est quand même une démocratie où tout le monde doit participer d'une manière ou d'une autre, et là je vous rejoins complètement. Sur l'assurance-vie, je suis complètement d'accord avec vous. Une partie de l'assurance-vie, bien entendu, paye, retourne soit vers l'entreprise, soit vers des services publics, mais néanmoins, l'observation de Denis Kessler de tout à l'heure est fondamentalement vraie. Une grande partie de notre épargne, dont l'assurance-vie, va financer de la consommation, c'est-à-dire le déficit public, par la dette publique. Loin de moi l'idée de dire que toute dépense publique est sans intérêt, mais le déficit est un problème. Une grande partie de notre épargne va financer le déficit public, donc de la consommation immédiate, et trop peu va financer l'investissement de long terme qui est nécessaire pour la croissance économique.
Merci. Haïm Korsia.
Merci, Monsieur le Président. J'ose pas vous dire que c'est de l'hébreu pour moi, parce que ça serait pas vraiment juste, mais il y a quand même des notions qui volaient au-dessus de ce que je peux comprendre. Et j'ai deux choses qui me gênaient. Une question et quelque chose de formidable que vous avez dit, et peut-être pas assez développé, parce que je trouvais que c'était extraordinaire. Les questions qui me surprenaient, c'était cette façon finalement assez classique de dire qu'en France, on n'est pas bon. On n'est pas bon dans la fiscalité. Bon, c'est un peu, c'est probablement un peu caricatural, d'autant qu'ici, dans cette salle, il y a beaucoup de ceux qui ont porté une part de cette politique avec beaucoup de talent et d'engagement. Donc, je ne pense pas qu'on soit aussi mauvais qu'on veut bien l'entendre, ou que vous avez pu le dire à tel ou tel moment, parce que, en réalité, il y a une notion d'égalité et une notion d'équité. Vous y êtes arrivé de trois moments. Je trouvais important de voir comment c'est le principe d'équité qui est le moteur réel du fisc plutôt que le moteur d'égalité. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que quand vous présentez les systèmes dérogatoires, c'est le mot que vous employez, les régimes dérogatoires ou les niches fiscales, évidemment on a l'impression que ce sont des avantages. En réalité, c'est un outil pour le politique d'orienter l'investissement vers tel ou tel domaine. Quand il y a eu des besoins dans les dom-tom, on a fait des incitations fiscales pour aller vers les dom-tom, avec les résultats qu'on connaît, mais peu importe, l'idéal était là. Quand on veut orienter vers, je sais pas moi, l'achat de véhicules électriques, on aide l'achat de véhicules électriques, c'est pas une niche. Alors évidemment, si on supprime la déclaration à moitié de l'indemnité académique, ça je suis d'accord. Je peux même le revendiquer, si vous voulez bien, et je pense que confrères seront d'accord pour une partie, en tout cas. Mais les niches sont en fait un principe dérogatoire. Or, la dérogation est un principe de gouvernance. j'ose le dire ici devant quelqu'un qui a bien connu le ministère de la Défense. Vous savez que, par exemple, en France, la loi interdit l'exportation d'armement, sauf dérogation. Et cette dérogation nous permet d'être le troisième exportateur mondial. Donc la dérogation n'est pas hors la loi. Elle est une façon d'orienter la loi vers des intérêts. Et enfin, vous avez dit quelque chose de lumineux, à mon sens, sur le fait qu'il est important que chaque citoyen et chaque citoyenne s'engage et participe, même de manière très petite, au principe de l'impôt, c'est-à-dire au principe du fonctionnement collectif de la société. Et pas de manière indolore, comme vous le dites, et ça, je pourrais vous le démontrer dans la Bible, si vous le voulez, mais je crois important, même si c'est minime, qu'il y ait une forme d'impôt qui dise « je participe ». Comment réussir à associer toutes ces ambitions qui peuvent paraître être des injonctions paradoxales parfois ?
Michel Didier.
Oui, sur le premier point, je n'ai nulle part n'ai exprimé l'idée qu'en France, on n'est pas bon. Hein, je veux dire, on est bon sur certains points et on est très mauvais sur la fiscalité du capital. Voilà, c'est tout ce que je voulais évoquer. En tout cas, on peut faire mieux. Voilà, on peut faire mieux. Sur l'équité, égalité et l'affaire des dérogations, etc., bien sûr, je suis d'accord avec vous sur le fait que l'État a parfaitement le droit de vouloir créer des incitations pour orienter, on va dire. Alors, jusqu'où ? C'est un débat, parce que s'il le fait... Il faut qu'il y ait une justification, quand même. Sinon, ça devient un arbitraire politique, de dire « je vais avantager telle ou telle activité, tel ou tel secteur ». Alors, quelles sont les raisons qui peuvent pousser et les modalités qu'il peut mettre en œuvre ? Sur les raisons, j'aurais tendance à dire la règle, c'est le droit commun, et il faut tenir sur l'idée du droit commun. Mais il peut y avoir quelques... J'en ai évoqué une, qui est par exemple l'investissement de très long terme, qui effectivement ne se fera peut-être pas suffisamment, parce que l'intérêt des gens est souvent à courte vue. Il faut imposer, peut-être, ou inciter, plus exactement, les personnes à investir à long terme, notamment pour leur préparer la retraite. Je pense qu'il n'y aurait pas d'obligation, qui est une forme d'exonération du marché, hein, on sort du marché, ben, il n'y aurait peut-être pas des régimes de retraite. Donc, il faut qu'il y ait un minimum d'obligation. Mais il faut que ça soit très bien ciblé sur les domaines où le marché ne peut pas fonctionner. En gros, les économistes disent on accepte des interventions publiques ciblées en nombre limité lorsqu'il y a des failles de marché. C'est-à-dire le marché ne peut pas organiser la chose. C'est le financement des biens publics, évidemment, mais c'est aussi peut-être quelques orientations nécessaires qui ne se feraient pas toutes seules. Mais c'est très limité en nombre. Moi, je vois effectivement l'investissement de long terme, peut-être dans le même ordre d'idées, le financement de certaines infrastructures de long terme, parce que c'est très difficile de les rentabiliser. Peut-être le financement du capital risque initial, parce que là aussi, encore qu'il y a des pays où on finance très bien le capital risque. Bon. Mais c'est tout, hein, il faut le limiter considérablement. Alors sur la manière de procéder, en règle générale, quand même, les économistes pensent que c'est pas très bon de procéder par... Ils ne sont pas toujours d'accord avec, d'ailleurs, les intéressés, en tout cas, ceux qui bénéficient, de procéder par des incitations fiscales, parce qu'à nouveau, c'est assez aveugle et ça cache les choses. Il vaut mieux, si on veut inciter quelque chose, si l'État veut inciter, il vaut mieux que ça apparaisse comme une dépense publique explicite, que ça soit voté par le Parlement et que ça soit mesuré pour voir quelle est, et ensuite évaluer. De manière qu'on sache ce qu'on fait. Voilà. Mais voilà ma réponse.
Bien, en ce qui me concerne, j'avais quelques questions à poser. La première, c'est une remarque qui concerne la question de la taxe d'habitation. Je crois que si 80% des Français ne paient pas la taxe d'habitation et que 55% ne paient pas l'impôt sur le revenu, l'incitation en France à limiter la croissance de la dépense publique va singulièrement se réduire encore, si je puis me permettre. Et je voulais ajouter un point sur le sujet de la dette, qui est que depuis 2006, la Cour des comptes publie chaque année une situation nette de l'impôt, de l'État. Cette situation nette est devenue négative, c'est-à-dire que l'ensemble des dettes de l'État sont supérieures désormais à son patrimoine, ce qui est une situation qui, naturellement, dans une toute autre forme de collectivité non publique, déboucherait inévitablement sur des mesures obligatoires. Mes questions portent d'abord sur les taxes des collectivités territoriales. Tu les as rapidement évoquées à la fin, mais pas du tout dans l'exposé. Est-ce que l'existence d'une taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties, qui porte normalement sur la valeur locative de ces propriétés, est-ce que cette taxe foncière ne vient pas s'ajouter à l'ensemble de la présentation qui a été effectuée? Et de quelle façon peut-elle être rendue compatible avec un impôt sur la fortune qui serait limité aux biens immobiliers, surtout au moment où on supprimerait l'essentiel de la taxe d'habitation? Du point de vue des collectivités territoriales, il me semble que ça pourrait poser un problème de faisabilité. Ma deuxième question est une question observation sur à la suite d'une question qui a été posée sur la façon dont des grands patrimoines peuvent continuer à exister en France et comment il était possible d'envisager des solutions dans lesquelles ils payaient relativement peu d'impôts. Je crois que ceci est assez facile à comprendre. À partir du moment où il existe un impôt sur le revenu et un impôt sur le patrimoine, que la somme des deux a un produit qui est plafonné, il suffit que le revenu soit suffisamment faible pour ne pas permettre d'imposer beaucoup l'impôt sur le patrimoine, ce qui est naturellement tout à fait concevable dans des conditions qui ne sont contestables d'aucun point de vue, ni du point de vue de l'équité, ni du point de vue de la régularité, bien sûr. Ma deuxième question, mais sur ce point, je voulais simplement que tu puisses le confirmer le cas échéant, puisque c'est une impression qui n'est pas fondée sur une analyse précise. Ma troisième question est sur la neutralité. En ce qui concerne la question de neutralité, on a l'impression que la neutralité pose un problème important, puisque elle ne permettrait pas de favoriser l'investissement à long terme. À vrai dire, elle constituerait un progrès considérable par rapport à la situation actuelle, puisque la situation actuelle est quand même caractérisée par le fait que nous avons une tendance à favoriser d'une façon massive l'épargne liquide par rapport à l'épargne à long terme. L'un des produits préférés des Français, des hommes politiques, c'est le livret A des caisses d'épargne, enfin qui maintenant d'ailleurs est de l'ensemble du monde bancaire. Ce livret A bénéficie d'une non-imposition de l'intégralité de son revenu. L'ensemble de la collecte du livret A est réalisé à 80% par 10% des Français qui sont au plafond du livret A et donc qui bénéficient d'une non-imposition de l'intégralité de leur revenu dès lors que celui-ci est placé en investissement liquide, ce qui n'est pas particulièrement rationnel, il faut le reconnaître. Le précédent président de la République a eu l'idée qu'il était opportun d'augmenter le plafond pour permettre à ces Français d'échapper davantage à l'impôt, probablement, ou pour financer mieux les investissements de la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, dans le projet que tu as présenté, Michel, je voulais te demander si quelque chose avait été imaginé en ce qui concerne les déformations qui pouvaient résulter de l'emploi de l'épargne à partir du moment où l'on assurerait une imposition égale des différents instruments d'épargne. La même question vaut pour l'assurance vie, qui est le deuxième grand placement et dont la principale caractéristique est que les règles successives qui ont été instaurées font qu'elle sert surtout à financer l'État et ses déficits. Dans l'hypothèse où passerait la disposition que tu as évoquée, comment se passerait la question de l'assurance vie.
Bien, très brièvement sur l'impôt foncier. Aujourd'hui, il représente à peu près 17 milliards d'euros sur les ménages.
personne n'imagine qu'on l'allège, hein, parce qu'au contraire, on créera une deuxième couche, qui existe déjà, elle est incluse dans le patrimoine imposé à l'ISF. Au fond, on a déjà un impôt sur le patrimoine proportionnel, en réalité, qui est l'impôt foncier, à peu près, à des exonérations près. Mais il y en a peu, elles sont surtout sur la taxe d'habitation. Ça représente à peu près, ce serait un impôt sur le patrimoine de l'ordre de 0,3-0,4%. Je dirais que dans cette zone, ce n'est pas un problème majeur et ce n'est pas progressif. Je ne sais pas comment on va faire, on ferait pour un deuxième impôt progressif qui s'ajouterait à l'impôt proportionnel qu'est l'impôt foncier. Là, je n'ai pas trouvé la réponse claire. Échapper à l'impôt vertical, enfin, la question d'échapper à l'impôt, le calcul est extrêmement simple et je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit parce qu'on ne comprend pas. Sinon, pourquoi un gros patrimoine peut échapper aujourd'hui à l'impôt? Tu en as donné d'ailleurs l'explication, mais je vais un peu la proposer. On va prendre un exemple, hein, un patrimoine de 100 millions d'euros, c'est quand même considérable. Entièrement mis dans une enveloppe, par exemple d'assurance vie, mais il n'y a pas que l'assurance vie, il y a aussi les holdings admettrices, enfin il y a beaucoup de choses qui existent pour ça, mais capitalisé, c'est-à-dire qu'on ne touche pas de revenus, on ne prend pas de revenus sur ce capital. Prenons le cas de l'assurance vie, il est imposable à l'ISF, ça ferait un impôt sur l'ISF en gros de 1,5 million d'euros, mais le contribuable paiera zéro en raison de la règle de plafonnement. Et non seulement il ne paiera pas d'ISF, mais il ne paiera même pas d'impôt sur le revenu, en tout cas à court terme. Tout simplement parce que l'ISF est plafonné à 75%, enfin les impôts total, l'impôt total qu'on doit payer est plafonné à 75% des revenus touchés, et le Conseil constitutionnel là-dessus a été formel. Comme les revenus ne sont pas touchés, le plafond est égal à zéro, et le total impôt sur le revenu plus ISF est égal à zéro. Ça pose un problème, quand même. Ce problème, on ne peut pas le résoudre simplement, parce qu'il est inhérent au système. Il résulte de plusieurs causes. Une cause qui est légitime, qui était à un moment donné de vouloir faciliter l'assurance-vie, c'est légitime, je n'ai pas rien contre cela. Et une augmentation progressive qui est faite à un autre moment de la fiscalité. Et troisièmement, le Conseil constitutionnel qui est intervenu là-dessus et qui a énoncé des règles rigoureuses que je peux d'ailleurs, on pourrait les regarder, elles sont très intéressantes. Et il est devant un vrai sujet de contradiction, le Conseil constitutionnel. Parce qu'il a jugé à plusieurs reprises que l'impôt devait être normalement payé à partir du revenu qu'il procure, à condition de l'avoir touché. Et dès lors qu'il doit être payé, il faut plafonner, et le plafonnement conduit à ce que j'ai indiqué. Mais j'ai un autre exemple, qui lui est une inéquité horizontale, et aussi inhérente au système. C'est que si au lieu de prendre un gros patrimoine, je prends un beau patrimoine moyen, disons une dizaine de millions d'euros, deux contribuables ont 10 millions. Tous les deux mettent cet argent en assurance vie. C'est leur droit le plus absolu. Ils vont tomber sous la règle du plafonnement. Mais il se trouve que l'un des deux travaille, ou sa femme travaille, tout simplement. La règle du plafonnement va plafonner à 75%, mais dans la base, il y aura le revenu du travail de sa femme. Et donc, il va être obligé de payer de l'ISF sur le revenu du travail de lui, pour pas ajouter un élément marital, mais il va payer de l'ISF avec le revenu du travail. On est en plein déraison. Voilà. Mais c'est notre système. Et les contribuables se trouvent dans cette situation aujourd'hui. Il y a des choses qu'il faut faire cesser. Mais ça ne cessera pas par des ajouts supplémentaires de complexité, au contraire. Ça ne peut cesser que par une simplification du système. Alors sur la neutralité, Moi, je ne vois pas d'objection, de contradiction. Je pense qu'il faut un droit commun neutre et il faut expliciter quelques mesures, par exemple, des mesures d'encouragement à des placements de long terme. Ça peut être au travers de l'assurance vie, ça peut être à travers d'autres systèmes, mais il faut que la base soit neutre. Voilà. Je pense que si dans la base, on commence à la introduire des trous dans la base, on ne sait plus où on en est au bout d'un certain temps. Voilà un peu le point de vue que je défends.
Il nous reste à vous remercier de cette présentation d'abord lumineuse et ensuite des réponses très précises que vous avez apportées à chacune de nos questions. Merci beaucoup, Michel.
Merci.